Je lis dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, cette parole de Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Et Jésus, par cette parole, voulait rassurer ses disciples qui étaient inquiets, et il fait une nuance entre la paix que donne le monde et la paix que lui nous donne. Il y a une différence. Et j'aimerais parler ce matin de ce que le monde offre et de ce que Dieu nous propose, nous donne gracieusement. Le monde, là, quand il dit « je ne donne pas comme le monde donne », c'est cette société qui marche sans Dieu. C'est comme ça que Dieu appelle la société sans lui, c'est le monde. Une société où l'homme est au centre, l'homme est une sorte de Dieu, et il y a le matérialisme, tout est matériel, et l'âme est négligée, l'éternité est totalement évacuée, on ne pense pas à un jugement futur, on ne pense pas à Dieu, on vit comme si Dieu n'existait pas et comme si on n'allait jamais mourir, et ça c'est le monde. Et le monde offre une certaine paix, en général, et il propose la tranquillité d'âme à peu près. Mais j'aimerais surtout parler ce matin du bonheur et de la justice. Le bonheur selon Dieu et selon le monde, la justice selon le monde et la justice selon Dieu. Je lis dans le psaume 4, verset 6, cette question. Plusieurs disent: qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Psaume 4, verset 7, excusez-moi. Qui nous fera voir le bonheur? Ça, c'est la question que tout le monde pose. Tout le monde veut être heureux. Je ne connais pas quelqu'un dans le monde qui dit: ah non, moi, je ne veux pas être heureux. On veut tous être heureux, on cherche tous le bonheur. Mais vous savez, la définition du bonheur, j'ai regardé dans le dictionnaire Robert, première définition, chance. Et le mot bonheur, ça vient de bon heur, l'étymologie. Bon heur, heur, c'est un mot de vieux français qui veut dire l'augure, la chance. Donc, être heureux, avoir le bonheur, c'est avoir de la chance. C'est-à-dire, tu gagnes au loto. La chance, c'est quelque chose qui n'est absolument pas maîtrisé et qui arrive rarement. Franchement, les gens qui ont beaucoup de chance, c'est rare. Et la chance tombe rarement sur soi, hein, sur nous. Et puis, pour avoir le bonheur, il faut que tout ensemble se conjugue parfaitement. C'est-à-dire, il faut que je sois en même temps en bonne santé, riche, beau, bien portant, que le monde soit en paix, que j'ai de quoi bien manger. C'est-à-dire, c'est quasiment, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Voilà. Le bonheur, on le poursuit, mais on sait bien qu'on l'atteint rarement. Et des fois, on a un instant de bonheur, une goutte de bonheur, on dit: oh, ça y est. Mais le bonheur dans la Bible, c'est autre chose. D'ailleurs, le mot bonheur en hébreu, achar, ça veut dire être sur le chemin droit. C'est curieux, ça, hein? Être heureux, c'est être sur le chemin droit. Et en grec, makarios, ça veut dire être béni. Béni par Dieu, sous-entendu. Dans la Bible, le bonheur, ce n'est pas ce coup de chance qui vous arrive de temps en temps. Le bonheur, c'est d'être dans le chemin de Dieu et d'être béni par ce Dieu. C'est ça le bonheur. Et le chrétien, c'est ce bonheur-là qu'il devrait rechercher. Et on doit faire attention à ne pas se faire avoir par les chimères et les illusions de ce monde. C'est facile parce qu'on baigne dans ce monde, on nage dans ce monde, on est dedans, on ne peut pas éviter cette influence. Mais le chrétien doit vraiment se préserver, faire le tri, avoir du discernement spirituel et dire: moi, je ne cherche pas ce bonheur matérialiste. Je veux vraiment chercher à être dans le chemin de Dieu, à être béni par mon Dieu. Je pense à Jacob et Ésaü dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Ils étaient deux frères jumeaux, nés de la même famille. Isaac, c'était un croyant, un homme de Dieu, un des patriarches d'Israël. Et sortent deux enfants avec deux destinées différentes, deux caractères différents. Ésaü, qui est l'aîné, il est sorti en premier, même si Jacob a essayé de le rattraper. Lui, ils ne cherchent que la bénédiction matérielle, ils cherchent le bonheur, selon le monde. Alors, un jour, son frère lui propose un bon plat de lentilles alors qu'il revient de la chasse, et Ésaü, il vend sa bénédiction d'aîné pour un plat de lentilles. Et c'est vraiment, je trouve, une image parfaite du bonheur selon le monde. C'est-à-dire, la bénédiction de Dieu, on s'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est mon plat de lentilles tout de suite. Ça sent bon. Vous savez, les petites lentilles au lardon, là. Bon, ça ne devait pas être au lardon parce que les Juifs ne mangeaient pas de porc. Hein. Mais il faut reconnaître qu'avec les lardons, ça rajoute quand même ce fumet. Oh là là. Et vous revenez de la chasse, vous êtes fatigué, vous avez un gros creux, vous n'avez pas pris grand-chose, vous avez marché des heures et vous avez cette odeur. On dit, oh. Mais de vendre sa bénédiction, ça montre à quel point il tenait en estime Dieu. Hein. Pour lui, Dieu valait moins qu'un plat de lentilles. Il a vendu son droit d'aînesse et Jacob, lui, il a tout fait pour l'avoir. Il a même triché, menti. Jusqu'au jour où il a lutté avec Dieu, nous raconte la Genèse. Et qu'est-ce qu'il a dit à l'ange de l'Éternel ? Il a dit, je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Jacob, il cherchait le bonheur auprès de Dieu. Et il dit, je ne te lâcherai pas. Bénis-moi. Est-ce qu'on a cette foi, cette persévérance, cette détermination de Jacob d'être dans la bénédiction de Dieu ? Attention, la bénédiction, encore une fois, pour le chrétien, ce n'est pas être riche, beau et bien portant et avoir des vacances et tout ça. Ce n'est pas ça le bonheur chrétien. C'est d'être dans la présence de Dieu, d'être en communion avec le Seigneur, d'être sauvé déjà, bien sûr, mais ensuite de marcher avec Dieu dans ce chemin droit. Le bonheur, selon le monde, c'est l'absence de contrariété. Ah, quand j'ai aucune contrariété, je suis heureux. Ça arrive combien de fois par jour ? Pas souvent. C'est la richesse matérielle. Combien sont riches ? Bon, en France, on est quand même vraiment gâtés. Hein. Même si la France vit totalement à crédit, on est gâtés parce que, quelque part, on est en faillite. Néanmoins, on est gâtés, on est beaucoup plus riches que beaucoup de gens dans le monde, hein, que la plupart. Et on peut remercier Dieu, mais il faut bien utiliser notre richesse. Pas pour dire, ah, super, on est riche, on va s'en mettre plein la panse, mais de penser à ceux qui ne sont pas riches, d'avoir cet esprit vraiment de grâce et d'amour et de partage. Et puis, on pense que le bonheur, c'est la santé, bien sûr. Hein. On le dit, c'est un proverbe, hein. Le bonheur, c'est la santé. Ah, si la santé va, tout va. Et c'est vrai que quand on est en mauvaise santé, la vie devient tout de suite beaucoup plus compliquée. Vous pouvez être riche, vous pouvez être au bord de la mer, sous les cocotiers. Si vous êtes malade, vous êtes malheureux. Et c'est là où le bonheur selon Dieu est différent. Le bonheur selon Dieu ne dépend pas de ces choses-là. On peut être heureux dans l'épreuve, dans les soucis, dans les contrariétés, dans l'adversité et même dans les persécutions. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre lorsqu'il a commencé à annoncer la résurrection de Jésus-Christ à Jérusalem. Très vite, comme il y a eu beaucoup de gens qui se sont convertis, les autorités religieuses l'ont fait chercher. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe là ? Tu mets le désordre, tu prêches ce Jésus qui est un faux Messie. Et ils l'ont mis en prison après l'avoir battu. Et la Bible dit que Pierre était joyeux d'avoir été battu pour le nom de Jésus. Alors on dit, attends, comment on peut être joyeux d'être battu comme ça, persécuté ? Ce qui le rendait joyeux, c'est que c'était pour le nom de son Seigneur. Il aimait tellement le Seigneur qu'il était joyeux de mériter, si on peut dire, d'être digne, d'être insulté, frappé, arrêté pour sa foi. Paul, en prison, qu'est-ce qu'il faisait avec Silas ? Il chantait des cantiques. Vous connaissez beaucoup de gens dans les prisons qui chantent des cantiques ? En plus, les prisons de l'époque, hein, il n'y avait pas la télévision et tout ça. Ils avaient les fers aux pieds. Hein. Il était donc, ça veut dire, assis par terre toute la journée, coincé avec ses jambes. Il ne pouvait pas bouger les jambes. Et malgré tout ça, il chantait des cantiques. Qu'est-ce qui fait chanter quelqu'un comme ça en prison ? C'est qu'il ne comptait pas sur le bonheur qui lui tombe dessus. Il n'attendait pas que sa vie soit merveilleuse parce qu'il était devenu chrétien. Non. Il était content parce que le Seigneur Jésus était avec lui dans son cachot. et parce que lui, il était avec Jésus dans son cachot. Et quand on est avec Dieu, on est heureux partout où on est. Que ce soit en vacances, que ce soit au travail, que ce soit en prison, que ce soit dans la persécution, que ce soit dans la maladie. Il y a des chrétiens qui, dans la maladie, louent le Seigneur, encouragent les autres. Comment font-ils ? C'est que par la foi, ils sont contents d'avoir le Seigneur, d'être avec Dieu. C'est Adolphe Monod, ce pasteur, qui a écrit ses adieux. C'est un ouvrage où qu'il a écrit sur son lit de maladie. Il est resté très longtemps malade avant de décéder. Et dans ses adieux, il parle de ses regrets. Il dit « Je n'ai pas assez prié dans ma vie ». Mais il parle aussi de sa joie d'être avec le Seigneur. Et en fait, les gens venaient le voir dans son lit, dans sa chambre. Et il y avait des cultes, et il chantait, lui, il prêchait un message, il donnait un message, une méditation, il priait ensemble. Et en fait, il a eu les meilleurs moments de sa vie, c'était sur son lit de mort. Pourquoi ? Parce que ces moments-là, il les a saisis pleinement avec Christ. Alors qu'avec la vie de ce monde, on laisse de côté le Seigneur si facilement, si vite. Et on essaie de se raccrocher à des bouts de bonheur que le monde nous offre, des satisfactions matérielles ou physiques. Mais quand on est avec le Seigneur, peu importe où on est, peu importe quelle est la situation, on a cette bénédiction, ce bonheur intérieur. Dans la Bible, il y a le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, ça veut dire le prédicateur, et c'est Salomon qui l'a écrit. Il a prêché aux jeunes gens, parce qu'on voit que l'Ecclésiaste, ça s'adresse aux jeunes. Les jeunes, hein, par définition, ils mordent à pleines dents dans la vie. Ils veulent goûter les choses, ils veulent apprendre, ils veulent découvrir, ils veulent vivre à fond. Et l'Ecclésiaste leur dit, les jeunes, allez-y, mais attention, Dieu vous appellera en jugement. C'est un des derniers versets de son livre. Mais surtout, il raconte dans son livre qu'il a tout essayé. Il dit, j'ai essayé la philosophie. Ça, c'est sérieux quand même. Et par la philosophie, j'ai cherché le bonheur. Pas trouvé, vanité. Alors il dit après, je me suis tourné vers la folie. Pourquoi pas, après tout. En étant fou, peut-être on oublie ses problèmes, mais il dit même dans la folie, c'était la vanité. Après, il a cherché dans le travail, il a commencé à construire, à bâtir des jardins, des palais, des temples, des maisons. C'est passionnant ça d'être architecte, de concevoir, de faire des travaux chez soi, c'est pas passionnant ça ? Les bricoleurs, et il dit tout ça, ça ne m'a pas rendu heureux. Ensuite, il a essayé les plaisirs, la musique, les fêtes, les femmes. Saint-Tropez, sur Israël, ça l'a laissé vide. Ensuite, il a essayé l'argent, la richesse, et il en avait de l'argent. Il recevait des tonnes, enfin des kilos et des tonnes d'or par an dans son royaume, et beaucoup allaient pour lui en fait. C'est lui qui l'utilisait pour se faire des belles maisons et des belles choses, comme c'était le roi. Et il dit, tout ça c'est de la vanité, c'est du vent, poursuite du vent. Si lui le dit, si moi je vous le dis, vous allez dire, bah oui, tu dis ça, bon, t'as pas vécu tout ça, mais lui il a vécu tout ça. Il était roi, il avait accès à tout, et il a dit, les jeunes, tout ça c'est de la poursuite du vent. Arrêtez de poursuivre le vent, poursuivez des choses vraies. Des choses profondes. Qu'est-ce qui fait le vrai bonheur ? Il y a plusieurs versets, il y a l'Ecclésiaste notamment, qui dit « Quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. » Le bonheur, c'est pour ceux qui ont cette crainte de Dieu, qui n'est pas la peur, qui est ce respect, cette obéissance, ce discernement, cette sagesse d'écouter Dieu. Dieu nous parle à travers sa parole écrite, à travers son esprit, et il faut l'écouter. Si vous écoutez vos pulsions, si vous écoutez vos passions, si vous écoutez les messages de ce monde, vous allez dans le mur, vous allez poursuivre du vent. Quand on poursuit le vent, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a rien, ça s'en va. Pour bâtir une vie, pour l'éternité, il faut poursuivre Dieu. Hein, j'aime ce livre de Tozer, à la poursuite de Dieu. Hein. On doit rechercher Dieu et on doit avoir cette crainte, cette obéissance. Seigneur, tu es mon créateur. je ferais mieux de t'écouter parce que toi, tu sais ce qui est bon pour moi. Tu sais ce qui me rendra heureux, en fait. Nous, on cherche notre bonheur à notre façon. Ce qui me rendra heureux, c'est ci ou c'est ça. Mais Dieu sait mieux que nous ce qui nous rend vraiment heureux. Surtout que nous, on tombe vite dans les addictions. Un drogué, vous lui dites, qu'est-ce qui te rend heureux? Ben, c'est ma dose. Ça ne le rend pas heureux, en fait. Mais il en a besoin. Un alcoolique, c'est pareil. Mais avec Dieu, on n'est pas dans l'addiction, on est dans la sagesse, dans l'âme comblée. Une autre chose qui nous remplit de bonheur, c'est le pardon de Dieu. C'est David qui écrit dans les psaumes, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Quand on sait que nos péchés sont pardonnés, on a le vrai bonheur. Tant qu'on a la conscience lourde, on n'est pas tranquille, on n'est pas heureux. On ne dort pas bien. Ça ne se passe pas bien avec les autres. Mais quand on sait qu'on est pardonné, mais comment être sûr d'être pardonné? Eh bien, c'est pour ça que Jésus est venu mourir sur la croix. C'est pour payer notre dette. La Bible dit à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il a dit à tous ceux qui croient en son nom, il a pardonné tous les péchés. C'est la promesse de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, on peut recevoir ce pardon. Mais je vais en parler un peu plus avec la justice. Une autre chose qui rend le chrétien heureux, vraiment heureux, c'est le contentement. Proverbe, tous les jours du malheureux sont mauvais. Mais le cœur content est un festin perpétuel. Intéressant, hein, les proverbes. Les proverbes, ce sont des énigmes. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi tous les jours du malheureux sont mauvais? Le malheureux, c'est celui qui voit tout en noir. Hein. C'est le pessimiste. Alors pour lui, tout est toujours mauvais. Forcément. Tous les jours sont catastrophiques. Ça, rien ne marche. Tout va de travers. Tandis que celui qui a un cœur content, qui dit merci Seigneur, qui a le contentement, c'est un festin perpétuel. Et pourtant, il lui arrive des problèmes. Il a des tuiles comme tout le monde. Pensez pas qu'il a moins de malheur que les autres. Mais il est content de ce qu'il a. C'est le verre vide hein, et le verre plein, à moitié vide, à moitié plein. Et ce n'est pas que le chrétien est simplement optimiste ou un peu dans ses rêves. C'est que le chrétien il sait que Dieu est là. Et que sous la grâce de Dieu, sous la protection de Dieu, il ne peut que se réjouir, que de remercier Dieu. C'est ça qui fait le bonheur du chrétien, le pardon des péchés, le contentement avec le Seigneur. Et la crainte de Dieu, la marche avec Dieu. C'est ça le vrai bonheur que le chrétien doit rechercher. Alors ne nous laissons pas tromper et abuser par la poursuite du vent. Le deuxième point que j'aimerais voir, c'est la vraie justice. La justice des hommes est très très imparfaite. Soit elle va trop dans la répression, c'est-à-dire elle va être dans la vengeance, la violence, la torture, le massacre. Soit elle va être trop dans la compassion. Aujourd'hui, devant les tribunaux, comme il n'y a plus assez d'argent pour la justice, beaucoup de délinquants obtiennent un rappel à la loi, ça s'appelle. C'est quoi un rappel à la loi? C'est pas bien ce que vous faites. La loi l'interdit. Et hop, dehors. Et il va recommencer. C'est pas la justice, ça, hein? On est d'accord. Il y a un verset de la Bible qui parle de ça, Ésaïe 26, 10. « Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. » Quelqu'un qui fait du mal doit être puni. Mais maintenant, comment la justice humaine punit-elle? Je vous ai déjà parlé de ce programme dans les prisons. Il y a eu un article du rédacteur en chef du Nouvel Obs, je crois, ou c'est l'Express, qui a écrit sur les prisons françaises. Il dit « Les prisons fabriquent des criminels. Pourquoi ? Parce que vous êtes pire en sortant que quand vous êtes rentré. La prison ne vous offre rien. Elle vous offre que des conditions difficiles parce qu'il n'y a pas assez de gardiens, parce que les prisons sont vétustes, parce que vous êtes entassé à 3 ou 4 avec des dangereux criminels ou des islamistes qui vont vous endoctriner. Quand vous sortez de là, vous êtes pire. Et vous allez sortir plus vite que prévu parce qu'il n'y a plus d'argent pour vous garder et parce que vous allez avoir des remises de peine automatiques. La plupart des crimes sont commis par des récidivistes, des gens qui ont déjà été arrêtés. La plupart, la majorité dans le monde, hein, c'est pas seulement en France. Qu'est-ce qui se passe? Les prisons n'apprennent pas. Il y a quelque chose qu'on n'apprend pas, qu'on devrait apprendre en prison et devant un juge. C'est quoi? Avant l'amour, la repentance. La repentance. Se rendre compte que ce que je fais est un crime et que ça provoque des victimes et que ça fait souffrir tout le monde, moi compris. Et d'amener, si possible, parce qu'il y a des gens qui refusent, qui sont endurcis, hein, c'est comme ça, mais au moins de les aider à aller vers la repentance. Mais en prison, on ne vous aide pas à aller vers la repentance. On vous endurcit, hein, parce que là, vous devenez un dur. Et vous en voulez à la société, à la police, aux juges, à tout le monde, vous êtes prêts à tout casser. Et c'est là où la justice humaine est faillible et elle n'arrive pas à apporter ce qu'il faut. Ce n'est pas sur terre qu'on verra une justice parfaite, nous le savons. Mais il y a la justice de Dieu qui, elle, est parfaite. Alors on demande, mais moi, j'aimerais qu'il y ait la justice sur la terre. Mais très bien, il y aura la justice sur la terre. Mais quand Christ va revenir, il va juger tous les hommes. Il ne va pas juger seulement les délinquants, les dealers de drogue et les criminels et les pédophiles. Il va juger tous les hommes. Je vous cite toujours l'histoire du ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, qui a décidé d'éradiquer ou de combattre la mafia corse, ou qui sévissait en Corse, et il dit « on va les toucher au portefeuille, on va regarder leurs déclarations de revenus. Ce sont des gens qui touchent le RMI et qui ont des hôtels et des yachts. Alors il va falloir qu'ils s'expliquent devant les impôts, et comme ça, on va les coincer. » Et les Corses ont dit « bravo, enfin quelqu'un qui agit !» Ils étaient contents. Et puis, il a dit « maintenant, les impôts vont vérifier toutes les déclarations. » Et là, « oulala, stop !» Et ils ont fait des manifestations contre ça, et on n'en a plus jamais entendu parler. Enterré à 6 pieds sous terre. C'est-à-dire, on veut la justice pour ceux qui nous dérangent, mais pour soi, on n'est pas prêt. Et lorsque Dieu juge, il juge tout le monde, il juge tout, tout péché, toute faute contre sa loi parfaite. La vraie justice, elle est droite. Psaume, l'Éternel vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. La vraie justice, justement, elle juge avec équité. Elle ne donne pas plus de punition qu'il en faut. Elle ne donne pas moins. Elle donne exactement ce qu'il faut. Ça, c'est la vraie justice. Et Dieu juge avec sa vraie justice. Il y a des gens qui échappent à la justice humaine, mais quand ils meurent, ils se retrouvent face à leur juge éternel. Et ils n'échappent pas. Personne ne peut échapper au juge éternel. C'est Paul, lorsqu'il a prêché aux Grecs, qui étaient un peu comme nous, les Parisiens, il a dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Qui est cet homme ressuscité des morts qui jugera le monde ? Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ reviendra, il viendra pour juger le monde avec la justice parfaite de Dieu, équitable, mais droite et absolue. Si chacun de nous devait passer devant la justice de Dieu, qu'est-ce qui se passerait? On serait condamné. Si on fait le compte, et c'est bon des fois de faire le point un petit peu, parce que nous, on met la poussière sous le tapis. Hein. Mais de faire le point en disant, mais où est-ce que j'en suis devant la justice parfaite de Dieu? Est-ce que je suis vraiment quelqu'un de parfait? Non. Est-ce que je suis juste? Non. Combien de fois ai-je désobéi à la loi de Dieu? Mais on ne peut même plus compter. C'est la Bible qui dit qu'il y en a qui boivent le péché comme l'eau. C'est-à-dire, on pêche comme autant qu'on boit d'eau, tout le temps. Même on ne s'en rend pas compte qu'on est en train de désobéir à la loi de Dieu. Et tout ça, c'est compté, la justice de Dieu compte tout ça. La Bible dit que Dieu amasse un trésor de colère pour le jour de la juste rétribution de Dieu. faut pas croire qu'on s'en sort comme ça, hop, par une pirouette. Oh Seigneur, quand même, tu vas me laisser rentrer au paradis quand même. Personne ne pourra faire ça. Tout le monde aura la bouche fermée devant la justice parfaite de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a fallu que Dieu envoie son Fils, Jésus-Christ. Pour que les hommes aient une chance d'être sauvés. Parce que s'il n'y avait pas Jésus-Christ, on n'aurait aucune chance. On serait tous condamnés, perdus. Et comment la justice de Dieu se manifeste à travers Jésus-Christ? C'est que Dieu punit le mal. Parce que comme il est parfait et saint, il doit punir le mal. On ne peut pas laisser le mal comme ça. Un jour, tout mal, tout péché, toute iniquité doit recevoir une rétribution dans l'univers. Et c'est Dieu qui s'en occupe. Mais s'il punit le mal, on va tous y passer, les amis. C'est pour ça qu'il a décidé de punir le mal sur Jésus, le Seigneur Jésus. Et c'est le Seigneur Jésus qui a accepté de prendre notre mal, nos péchés, sur lui. Et ainsi, la justice de Dieu a pu se manifester sur Christ. Il a puni Christ pour nos péchés. Pas pour les siens, parce que Christ était sans péché. Mais il a puni nos péchés sur le Seigneur. La Bible est remplie de passages qui parlent de ça. Et il reste juste tout en laissant une chance aux pécheurs d'être pardonnés. Comment on peut être pardonné? Mais il faut d'abord se repentir. Pour qu'il y ait un vrai pardon, il faut qu'il y ait repentance. Si quelqu'un vous fait du mal, Dieu vous appelle à pardonner le mal. Il faut dire, allez, je passe. Mais est-ce que c'est vraiment pardonné dans l'univers, si on peut dire? Non. Pour que ce soit vraiment pardonné, il faut que la personne se repente et demande pardon. Et là, on peut lui accorder un pardon entier. Dire, oui, de tout cœur, je te pardonne. Mais tant que l'autre ne demande pas pardon, il y a un suspense là. Il y a un truc qui n'est pas réglé. Et c'est pareil entre nous et Dieu. Il faut la repentance et reconnaître que je suis coupable, que je suis pécheur, que je suis fautif, pour que Dieu puisse me pardonner pleinement. Il y a des gens qui viennent à Jésus par superstition en disant « Oh là là, je ne veux pas aller en enfer, sauve-moi !» Mais ils ne se repentent pas de leur péché. Parfois, il y a des gens qui se repentent de leur péché quelques mois ou quelques années après leur conversion. Ils viennent au Seigneur par la foi, plus ou moins sincèrement, et puis un jour ils réalisent « Mais j'ai échappé à l'enfer, mais j'étais complètement perdu, pervers !» Et là, ils se repentent a posteriori. Il vaut mieux a posteriori que jamais. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, on doit s'examiner devant le Seigneur. Il y a des choses parfois qui ne sont pas réglées entre nous et Dieu, ou entre nous et des êtres humains. Et il faut les régler pour être totalement pardonné et justifié. C'est le mot que la Bible emploie. Il dit « Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ ». Ça veut dire « On est rendu juste ». La vraie justice, c'est pour celui qui a ses péchés punis sur la croix, qui s'est repenti de ses fautes et qui a demandé pardon à Dieu. Celui-là, il peut recevoir la vraie justice. Toute autre justice est une fausse justice. Si vous venez à Dieu par superstition en disant « Seigneur, j'ai prié toute la journée pour que tu me sauves, alors sauve-moi », vous n'aurez pas de justice. Ou le pharisien qui prie au temple, Seigneur, non, c'est l'autre qui se frappe la poitrine, le pharisien qui dit, je donne ma dîme chaque semaine, et je jeûne deux fois par semaine, etc. Il se vend de ses bonnes œuvres religieuses. La Bible dit, celui-là n'est pas justifié. Vous pouvez faire toutes les bonnes œuvres que vous voulez, ça ne rattrapera jamais votre culpabilité envers Dieu. Jamais. La Bible est archi claire là-dessus. La loi ne peut pas racheter les péchés. La loi ne sauve pas. La loi révèle le péché, mais elle ne peut pas vous pardonner vos péchés. Pour être pardonné, il faut être comme l'autre, le publicain qui vient au temple en se frappant la poitrine cette fois-ci et en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi parce que je suis un pécheur. » Ça obtient la justice. Jésus dit « Cet homme est revenu justifié, pardonné chez lui. » Mais le pharisien qui s'est vanté de ses bonnes œuvres n'était pas pardonné. Maintenant, il faut choisir. Est-ce que je veux la justice de Dieu dans ma vie? Ou est-ce que je veux une fausse justice illusoire? Est-ce que je suis prêt à ce que le Saint-Esprit, la parole de Dieu, sonde mon cœur et révèle l'étendue de mon péché, mais je suis prêt alors à demander pardon, à venir au pied de la croix et dire « Seigneur, je te dépose toutes mes fautes » et il y en a beaucoup. Je ne pourrais même pas toutes les nommer. Mais on peut déjà en nommer quelques-unes. Et puis après on dit « Seigneur, prends tout le paquet. Tu as payé pour moi. Je crois que tu as payé pour moi. Et je crois que mes péchés ont été payés sur cette croix. » Et quand vous comprenez ça, après ça, vous ne vivez plus dans le péché. Ça vous arrive de tomber, mais vous ne vivez plus dans le péché parce que vous vous rendez compte que ça a coûté la vie du Seigneur. Vos péchés, ils ont été punis quelque part par Christ, sur Christ, à votre place, à ma place. Le Seigneur veut qu'on recherche le vrai bonheur, de marcher dans son chemin. Le Seigneur veut qu'on recherche la vraie justice. Si parmi nous, ici ce matin, il y a quelqu'un qui n'est pas en paix avec Dieu, vous n'êtes pas pardonné de vos péchés, mais vous avez un peu compris là que vos péchés ont déjà été jugés sur le Seigneur Jésus, alors vous pouvez être sauvé ce matin. Aujourd'hui même, maintenant, pas besoin d'attendre, simplement vous vous repentez devant Dieu. Et je propose qu'on ait un instant de recueillement silencieux. Père, merci parce que tu es patient. Tu as retardé ton jugement d'une certaine façon pour que tous aient une chance d'être sauvés. Et merci de ce qu'aujourd'hui tu nous as donné la vie encore et qu'aujourd'hui on peut se tourner vers toi. Je prie pour ces personnes qui ont levé la main. Je prie pour que leur repentance soit sincère et que leur foi soit complète, qu'ils saisissent vraiment le pardon en Jésus-Christ et qu'ils aient cette joie du salut, cette certitude que rien ne peut plus enlever après. Seigneur, que tu scelles leur foi par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que le pardon des péchés est un cadeau gratuit qu'on ne mérite pas et qu'on le reçoit par la foi. Seigneur, donne-nous d'être des chrétiens qui cherchent la vraie justice dans leur comportement, dans leur vie. Aussi, donne-nous d'être des chrétiens qui cherchent le vrai bonheur, d'être dans le bon chemin avec Dieu. Merci parce que tu nous donnes ta sagesse et tu nous as laissé la Bible qui nous avertit et nous protège. Merci Seigneur de tout ton amour pour nous qui est incommensurable. Et nous ne saurons jamais te remercier assez. Amen.